Conservation Musique vous présente l'événement Rendez-vous musical, première édition. Du 30 avril au 28 mai, tous les mercredis, deux groupes de la relève prendront d'assaut la scène du Bal du Lézard. Le 30 avril, DeLorean et Odile Dupont. Le 7 mai, Macédoine et Generator. Le 14 mai, Tous Azimuts et Arfan. Le 21 mai, Schizophonique et chez Orny on Wine. Et le 28 mai, La Chose et Transmission. Rendez-vous musical du 30 avril au 28 mai au Bal du Lézard. Entrée 5 $ incluant une surprise boréale. Une collaboration de Boréal, la Caisse de Limoilou, le Bal du Lézard et Première Ovation Musique.
89.1 CKRL.
Cette soirée vous est présentée grâce à la participation du Bal du Lézard. Le Bal du Lézard, 1049 3e Avenue à Limoilou. Lebaldulézard.com.
We'll be right back. Bonsoir tout le monde et bienvenue à La Marge, à CKRL. Ce soir, ben, comme vous l'avez deviné, ça va être un petit spécial sur les Smashing, plus précisément sur Billy Corgan. Et pour bien faire ce spécial-là, ben, j'ai eu besoin de l'aide d'un spécialiste, nul autre que M. François Cossignac, qui vient pour la première fois co-animer l'émission La Marge. Bienvenue François.
Salut Simon.
Ça va bien?
Ça va bien toi?
Yes! Donc, ce soir, on va explorer la carrière de William...
Patrick.
Corgan. T'es un grand fan des Smashing, grand fan de Billy depuis presque le début, François?
Oui, moi j'ai commencé à écouter ça dans Siamese Dreams. J'avais manqué à l'époque la sortie de Guiche, que j'ai récupéré par la suite, bien sûr. Et puis, à partir de ce moment-là, j'ai toujours suivi Billy. On verra ce soir qu'on va suivre le parcours de Billy Corgan. Et puis, la grande popularité de Billy a été plus dans les années 90. On saura qu'après coup, il y a eu des problèmes avec le band. Et par la suite, là, disons que c'est devenu moins populaire. Mais il y a quand même des chansons bien intéressantes qu'on va écouter ce soir.
Parfait. Tu parles de problèmes avec le band. Je pense que aussi, il y a eu un bon bout où il y a eu des problèmes avec lui-même. À moins que je me trompe, là, mais... C'est le genre d'artiste qui, je crois, s'est cherché pendant très longtemps.
Il s'est cherché pendant très longtemps, puis il était un petit peu dictateur envers son groupe, ce que les autres membres n'ont pas toujours apprécié. Donc, ça a donné des frictions dans le band, puis on en parlera tantôt, mais il y a ces anciens gens du band, là, lui parlent même plus aujourd'hui. Là. Donc, ça fait longtemps qu'ils ne se sont pas parlé, plus de 10 ans. Fait qu'on verra que Billy Corgan a chassé ses démons pendant longtemps, puis il essaie de se retrouver encore aujourd'hui.
Ouais, oui, c'est ça. C'est pas fini, cette quête-là. Moi, je me rappelle de Guiche, premier album, dans le fond, dont la pièce qui a ouvert l'émission, Rhinoceros, était tirée de l'album Guiche. Moi, je me rappelle de Guiche pour avoir écouté ça en cassette à l'époque, une cassette copiée. Et c'est ça, pour moi, ça a été une méchante révélation. Là. L'album au complet est incroyable. Là. Sérieusement, Guiche, c'est l'enfer. Là.
C'est un album excellent. C'est ça qui les a mis sur la map. Les gens ont découvert un band prometteur. C'est sûr que je me suis amusé là, pour l'émission de ce soir de regarder les statistiques un peu. Ils ont été au rang 195 au Billboard là, aux États-Unis. Donc, on voit que ça a quand même pas été très populaire. Je pense que les gens l'ont plus découvert par la suite, cet album-là.
C'est ça. C'était ouais, probablement. Puis c'était un succès aussi, j'imagine, très underground. Là. On s'entend, là, à l'époque, 91, Nirvana avait... Oui, Bleach était sorti, mais je veux dire, la vague de nouveau rock... C'était encore quelque chose d'incroyablement underground. Là.
Exactement. Eux autres, ils viennent de Chicago. Billy Corgan avait parti le band The Marked. Pourquoi The Marked? Parce que Billy Corgan a des grosses taches de naissance, fait qu'il avait appelé ça The Marked à l'époque.
Ah, okay.
Ils n'ont pas eu de succès du tout. Ils se cherchaient. C'est après coup que Billy Corgan a démarré Smashing Pumpkins avec James Iha, que beaucoup de monde connaissent.
Ouais. Puis The Marked, dans le fond, si les gens veulent fouiller un peu là-dessus, je pense qu'il n'y a rien d'officiel qui a été sorti. Là.
Très difficile de trouver des choses là-dessus. Je me suis déjà amusé à chercher, puis j'ai pas trouvé grand-chose. Là. Donc, on pourrait dire que le vrai départ de Billy Corgan a été avec Smashing Pumpkins en 1991.
Bon, parfait. On va continuer, dans le fond, directement en musique, avec deux autres pièces, probablement de la période dorée là, de Billy Corgan. On va s'entendre là-dessus, là, la période... L'âge d'or des Smashing, je parle des albums Siamese Dreams puis Melancholy and the Infinite Sadness. Les pièces que tu as choisies, dans le fond, parce qu'on a fait un peu le tracklisting à deux, là, mais.
Oui, ben c'est ça. En fait, on avait le choix. On s'est amusé aussi à regarder le répertoire de Smashing Pumpkins, c'est 1500 compositions, donc c'est beaucoup de stock. Il a fallu en choisir 10-15 là-dedans.
Mais 1500, on s'entend que ils ont quoi? Ils ont 8-9 albums?
Oui,
peut-être?
Quelque chose comme ça. Fait qu'on s'entend là, que la majorité, c'est des B-sides ou des choses qui n'ont jamais sorti officiellement.
C'est ça.
Mais il reste que c'est un groupe très prolifique. Ce que j'ai choisi dans Siamese Dreams, c'est pas les chansons les plus connues que tout le monde a entendu souvent, comme Today ou bien Disarm ou des choses comme ça. J'ai choisi Hummer, qui est une chanson très bonne, qui a été populaire, mais peut-être pas autant que les autres. Fait qu'aujourd'hui, on a essayé d'y aller dans le moins évident là, dans les chansons là, de Smashing Pumpkins. Pour ce qui est de l'album Melancholy and the Infinite Sadness, on a choisi Muzzle. C'est surtout ton choix à toi, Simon. Je pense que tu l'aimes beaucoup, celle-là.
Effectivement, moi, je pense que Muzzle, à part Eye, qui jouera un peu plus tard, Muzzle, c'est une de mes pièces favorites. Ça évoque tellement l'adolescence, je trouve, cette pièce-là. Ça évoque, tu sais, la quête de perfection dans ce qu'il y a de plus imparfait. En tout cas, moi, elle me fait vraiment halluciner, cette pièce-là, Muzzle. Puis, elle est énormément différente. Elle ressort du lot, je trouve. Tu sais, Melancholy, c'est un album double, il y a 33 pièces, si je me trompe pas, là-dessus. Et évidemment, il y a des extraterrestres. Tu sais, à chaque tranche de 4-5 tonnes, il me semble que t'en ressors une qui... Ouais, OK... Elle ressort du lot, effectivement, là, je pense à We Only Come Out at Night, des XYU, tu sais, des affaires de même qui ressortent complètement du lot. Et Muzzle, de par sa pureté, elle est complètement à part de toutes les autres. Moi, elle me fait halluciner.
Oui, puis on disait tantôt qu'il avait fait beaucoup de chansons. Lors de l'enregistrement de Melancholy and the Infinite Sadness, il avait le choix. Ils ont mis 33 chansons au total, mais il avait le choix d'une soixantaine de chansons. Donc, il y avait encore beaucoup plus de matériel que ça. Ils en ont sorti sur des B-sides après. Fait qu'on voit que Mozart, c'est un bijou là-dedans, mais on avait du choix, mettons.
Oui, effectivement. Alors, donc, on y va en musique avec Hummer. Et ensuite de ça, Muzzle. Vous écoutez toujours La Marge à CKRL. S'il y a de quoi, vous pouvez appeler en studio 640-1586. We'll be right back. Voilà, c'était donc l'excellente Muzzle. Je ne sais pas si vous avez trouvé cette pièce-là aussi bonne que moi, mais moi, elle me fait tout le temps le même effet. J'en reviens juste pas. C'est donc deux excellentes pièces, comme on a pu dire, de l'âge d'or des Smashing Pumpkins. Une période où Billy Corgan a été extrêmement, extrêmement productif.
Oui, effectivement. Puis cet album double-là qu'on vient de jouer, là, de Melancholy, là, ça a été un des albums les plus vendus de tous les temps. Bien sûr, il a été premier au Billboard, il a gagné beaucoup de prix. Billy Corgan prétend qu'il s'est inspiré des Beatles pour faire son album double, donc on peut pas dire nécessairement que c'est à la hauteur, mais quand même, là, en tant qu'album double, c'est dans les meilleurs de tous les temps, on peut dire ça. Là.
Et puis, il faut dire aussi que, justement, dans les années 90, dans la vague de rock alternatif qu'il y a eu, les Smashing ont été les seuls, pas mal les seuls de leur gang à oser un disque double. Tu sais, je veux dire, Red Hot s'est essayé en 2006 à peu près, puis ils se sont plantés royalement. Là, l'album Stadium Arcadium est pourri.
Effectivement, puis ils sont arrivés aussi avec beaucoup de concepts. T'sais, c'était très théâtral dans cette période-là, si oui. Tu te souviens bien. Les vidéoclips, la façon qu'ils s'habillaient. Billy Corgan arrivait avec son chandail Zero à ses shows.
Il avait l'air mort.
Oui, mais il a l'air d'un vampire un bout de temps. Ouais. Quand il a sorti son premier vidéoclip, je crois que c'est Bullet with Butterfly Wings, il était plus normal, je dirais, il avait les cheveux longs. Puis après coup, on l'a vu, la peau blanche, puis avec des genres de robes assez spéciales. Mais ça faisait un théâtre assez intéressant, les vidéoclips étaient intéressants, la pochette de l'album était intéressante. Fait que c'est tout ça qui a amené la vague, je crois, qui a fait remplir des stades partout à travers le monde.
Ouais, très audacieux, très audacieux. Et d'ailleurs, ben, tellement qu'ils ont été productifs dans cet album-là... Tout de suite après l'album Melancholy and the Infinite Sadness, l'album double, ils ont commencé à faire des trames sonores. Et les deux pièces qu'on a choisies, sur deux excellentes trames sonores, là, en passant, les deux pièces des Smashing, c'est probablement les meilleures pièces, les meilleurs morceaux de ces trames sonores-là. D'accord avec moi, François?
Effectivement, c'était vraiment des gros hits. Puis c'est spécial parce que ça arrive dans une période où, pour les Smashing Pumpkins, c'était une période difficile. On peut se souvenir que le clavieriste du groupe est mort d'une overdose. À ce moment-là, oui. Il était accompagné beaucoup de Jimmy Chamberlain dans ces déraps-là.
Ben d'ailleurs, je pense que ça avait été pointé que c'était Jimmy qui avait vendu, là, ou je sais pas quoi. Et ça a amené... au départ de Jimmy des Smashing.
Exactement. Et on verra justement que les albums par la suite, même les trames sonores qu'on va vous présenter tout de suite, ça a été des chansons qui n'avaient pas de drums dedans, ou en tout cas des drums électroniques. Donc, ils ont changé un peu leur approche pendant cette période-là, influencé beaucoup par la pièce 1979 de Melancholy and Infinite Sadness. Donc, on voyait une tendance de Billy de changer un peu son approche, quelque chose de moins rock, ou en tout cas de rock électronique. Puis ça a été quand même intéressant malgré tout.
Parfait. Donc, on y va avec ces deux pièces-là. Dans le fond, la première pièce qui va jouer, ça va être The End, Is the Beginning, Is the End, tirée de la trame sonore de Batman and Robin. Et ensuite de ça, au retour de la pause, ça va être l'excellente Eye, sortie de la trame sonore de Lost Highway. Alors, on y va donc en musique. Yeah.
Cette soirée vous est présentée grâce à la participation du Bal du Lézard. Le Bal du Lézard, 1049 3e Avenue à Limoilou. Lebaldulezard.com.
Les productions Limoilou en vrac et Première Ovation Musique vous présentent l'événement Rendez-vous musical première édition. Du 30 avril au 28 mai, tous les mercredis, deux groupes de la relève prendront d'assaut la scène du Bal du Lézard. Le 30 avril, DeLorean et Odile Dupont. Le 7 mai, Macédoine et Generator. Le 14 mai, Tous Azimuts et Arfan. Le 21 mai, Schizophonique et chez Orny on Wine. Et le 28 mai, La Chose et Transmission. Rendez-vous musical du 30 avril au 28 mai au Bal du Lézard. Entrée 5 $ incluant une surprise boréale. Une collaboration de Boréal, la Caisse de Limoilou, le Bal du Lézard et Première Ovation Musique.
Salut, ici Vincent Vallière. Cet été, je vous invite à prendre vos vacances en Gaspésie au Festival en chansons de Petite-Vallée. Ça se déroule du 27 juin au 5 juillet. Venez à la rencontre d'une quarantaine d'artistes, des découvertes, des têtes d'affiche et la mer à perte de vue. Fait que c'est un rendez-vous avec la chanson et l'accueil gaspésien. Moi, je serai là avec ma gang. OK, on part cet
j'ai
été.
La Manif d'Art 7 prend vos sens d'assaut et vous invite à participer aux nombreuses activités qui évoluent autour du thème « Résistance » et puis nous avons construit de nouvelles formes. Pendant un mois, découvrez le travail de plus de 120 artistes partout à Québec. Le samedi 3 mai de midi à 14h et les samedis 10, 17, 24 dès 13h, Julie Gagné et l'équipe de l'aérospatiale vous donnent rendez-vous à l'espace 400e Bell, lieu central de la Manif d'Art 7 et en direct sur nos ondes. Entrevues, chroniques, discussions, un regard en profondeur sur les activités et expositions de cet événement incontournable de l'art actuel. Programmation complète sur manifdart.org.
CKRL.
I am
c'est incroyable comment j'aime la fin de cette pièce-là. C'est hallucinant. Ça paraît, dans le fond, Jimmy est plus là. On est rendu ailleurs, là. Pour les Smashing, on est vraiment rendu ailleurs.
On est vraiment rendu ailleurs, puis ça fitait très bien. Je ne sais pas si vous vous souvenez du film Lost Highway. C'est un film très spécial.
Oui.
Cette chanson-là jouait dans une scène dans un bar, puis c'était extraordinaire. Je ne sais pas si tu te souviens du soundtrack, là, quelles étaient les chansons sur cet album-là.
C'était excellent.
C'était extraordinaire. Là. Il y avait des Trent Reznor, il y avait David Bowie, Nine Inch Nails, Marilyn Manson. C'était un très bon album.
Effectivement. Dans ces années-là, je te dirais même, ben en tout cas, dans les années 90, petite deux minutes nostalgiques, là, on peut se le permettre, là. Sérieusement, les trames sonores des années 70, là, il y en a une gang que c'était hallucinant. Là. Moi, je pense à Natural Born Killers, The Crow. La trame sonore de The Crow était malade, là.
Ouais, effectivement. On voit moins ça aujourd'hui. Il y a souvent une bonne chanson sur une trame sonore, ouais. Mais le reste est souvent moins bon, là, actuellement.
Lost Highway, c'était épouvantable comment c'était bon. Non, sérieusement, ça semble s'être perdu, comme beaucoup de choses, d'ailleurs, dans la musique, après les années 90.
Un fait quand même intéressant, là, la chanson qu'on a jouée juste avant, là, The End is the Beginning is the End, là,
ouais.
De Batman.
Ouais.
Cette chanson-là, bon, on l'avait perdue de vue. Puis en 2008, est sorti le film Watchmen. Puis dans le film Watchmen, il avait fait un trailer là, quelques mois avant sa sortie. Puis il avait mis cette chanson-là.
OK.
Et puis c'est à ce moment-là que les gens ont commencé à télécharger cette chanson-là sur iTunes. Puis elle est redevenue populaire plusieurs années plus tard.
Plus de 10 ans après.
Là. Exactement.
C'est quand même hallucinant. Donc là, on sent que ça. On sent le point tournant des Smashing. On sent que ça change. Et les albums qui vont suivre sont tout aussi différents, si je peux dire ça. Suivre ce courant-là. Là.
C'est certain que ces albums-là qui suivent ont déçu les fans. Il y a quand même des choses très intéressantes dans ce que Billy Corgan a fait rendu là, mais c'est peut-être moins dans ce que les gens attendaient. C'est certain qu'après le succès là, de l'album double,
ouais.
Adoré a pas eu le succès escompté. Les fans s'attendaient à autre chose. Il n'y avait plus justement le drummer. Billy Corgan avait perdu sa mère, donc il était dans un mood un petit peu plus là, peut-être dépressif. Fait que ça a fait un album intéressant, mais quand même à une autre place carrément, qui était peut-être là, moins facile pour les gens là, de se l'approprier. Là.
Ben en fait, dans ces années-là, à moins que je me trompe, mais je pense que c'est pas mal là où ce que Billy Corgan il a vraiment pris cordon d'à peu près tout. Là, Jimmy était plus là, il a tassé Jimmy. Il restait James Iha, le guitariste, et Darcy Redsky, qui était la bassiste. Incroyablement mêlée, là. Et d'ailleurs, c'est la seule qui ne fait plus rien, en tout cas, qui est complètement partie des radars, là. Il est rendu sur un ranch, en tout cas.
Oui, exactement. Pour Darcy, là, on sait que, elle a eu des problèmes de drogue, là. Encore aujourd'hui, on pense qu'elle a de la difficulté dans sa vie. James Iha a fait d'autres projets comme A Perfect Circle, puis tout ça par la suite.
Fait des albums solo.
Exactement.
Aussi.
Mais dans cette période-là, on peut dire que Corgan menait tout. Ce qui était déjà vrai avant, mais là, c'était peut-être encore pire, là. Donc, les autres étaient seulement des musiciens pour les spectacles.
Exactement. Des musiciens pour les spectacles, puis des figurants pour les vidéoclips. Quand on présentait le groupe au complet, là, dans les vidéoclips, là.
Exactement.
Parce que Billy, il faisait absolument tout. Les pièces qui ont été choisies donc pour représenter l'album Ava Adore, ça a été la pièce Adore, qui est dans le fond la suite logique de celle qui vient tout juste de se terminer, qui est exactement pareil comme Eye, sauf qu'on dirait qu'il l'a repris, il l'a attaqué dans un autre sens là, mais vous allez voir, ça commence pareil, c'est exactement pareil. Puis ensuite de ça, oui.
Oui, je voulais juste dire, dans cet album-là, on peut voir que Billy Corgan essaie d'avoir des chansons un petit peu plus lichées. C'est un petit peu moins trash, ou en tout cas moins brut que ses albums précédents. Fait qu'on va le voir là, en écoutant la chanson, qu'on disait que c'est plus calculé qu'avant.
OK. Et ensuite de ça, ben, pour l'album qui a suivi en 2000, qui s'appelait Makina, The Machines of Gods, qui est un album... c'est la suite logique de, je dirais, Ava Adore, je me trompe-tu, de Adore?
Ce que Billy disait, c'est que c'était un petit peu une caricature d'eux-mêmes rendu là. Il était très déçu que Adore n'a pas eu de succès. Donc, c'était un petit peu un album, je voulais dire expérimental, j'exagère peut-être un peu, mais c'est un album où il essayait des choses différentes, du genre heavy metal, mais qui ne l'était pas, des chansons, en tout cas, qui allaient chercher son ancien style et son nouveau. Fait qu'on peut voir qu'ils se cherchaient. Il y avait quelques bonnes chansons quand même, mais disons qu'avec tout ce qui se passait dans le band, on sait qu'en 2000, là, l'année où est sorti cet album-là, c'est là que le band s'est dissous. Donc, okay, on peut voir qu'ils étaient vers leur fin. Là.
Bon. Alors, on a choisi la pièce « Wound ». On aurait pu aussi bien choisir « The Everlasting Gates », qui a été quand même un hit assez connu de cet album-là. On y va donc en musique. On vous revient tout de suite après ces deux excellentes pièces.
Yeah.
Et voilà, c'était Wound tiré de Machina de Machines of God. Chanson plutôt incroyablement happy pour un titre aussi sombre, je dirais.
Absolument. Puis les autres chansons de cet album-là reflètent pas nécessairement ça non plus. Donc, il y a des chansons plus sombres, d'autres plus happy. Donc, c'est un mélange un petit peu étrange parfois.
OK. Là, dans le fond, on embarque le prochain album qu'on va explorer, ben qu'on va effleurer, je dirais. C'est pas nécessairement un vrai album de leur discographie, au sens où ce que quand t'as 25 copies vinyle seulement d'un album, moi j'appelle ça ultra ultra limité. Là. Est-ce que ça compte vraiment comme un vrai album dans leur discographie?
Ça dépend comment tu vois ça. C'est sûr que Billy Corgan, à la base, avec son concept Machina, il voulait faire un album double. Donc, lui, il avait composé ça pour faire un double. Puis c'est la maison de disques Virgin qui a pas accepté son projet.
OK.
Fait que c'est là qu'il a décidé de sortir son fameux Machina 2 en vinyle seulement à des gens qu'il connaissait. Il a donné ça en leur disant carrément « Envoyez ça sur Internet ». Donc, on pourrait dire que pour Billy, c'est un album officiel. Par contre, si tu regardes dans une discographie, on pourrait peut-être dire que non.
OK, bon, c'est bon. Fait que, dans le fond, la façon de le trouver, là, maintenant, à part eBay, t'as pas le choix, là, c'est sur Internet.
C'est hein? sur Internet, puis c'est au
gré de la qualité de celui qui a bien voulu l'encoder. Là.
Exactement. Donc, c'est pas évident de trouver une bonne qualité de cet album-là. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas du piratage de télécharger cet album-là. C'était voulu du band, donc c'est un album libre de droit. Là.
OK. Et ensuite de ça, ben ça, dans le fond, sur cet album-là, on va explorer la pièce « Glass ». Qu'on va mettre tout de suite une pièce très courte. Et ensuite de ça, on va aller explorer une pièce qu'ils ont sortie en 2001 sur leur Great Assets qui s'appelait Rotten Apples. Là-dessus, dans le fond, pour faire une histoire courte, dans le fond, c'est que c'est la dernière pièce que les Smashing auraient composée. Elle s'appelle Untitled. On peut dire que leur histoire a mal fini, là, finalement. Là. Quand tu donnes même plus la peine de donner des titres à tes compositions, Il est temps que ça achève.
C'était pas mal de l'ironie de la part de Billy Corgan, qui s'était fait dire que son album précédent était encore une fois pas à la hauteur. Donc, il s'est dit, je vais composer une chanson comme les gens aiment, dans le sens une recette, un petit peu plus de ce qu'il faisait avant. Et puis, oui, c'est une bonne chanson, mais c'était fait un petit peu par dépit, en disant, bon, ben c'est la fin du groupe. Le groupe a brisé à ce moment-là. Et puis, c'est la dernière tune qui a été composée par les membres originaux de Smashing Pumpkins. Quand je dis les membres du groupe, on peut dire ça, mais dans les faits, encore une fois, c'est Billy Corgan qui a tout fait.
Bon, alors on y va avec ces deux pièces-là et on vous revient tout de suite après au retour de la pause.
Just happiness, you and me.
Cette soirée vous est présentée grâce à la participation du Bal du Lézard. Le Bal du Lézard, 1049 3e Avenue à Limoilou. Lebaldulezard.com.
Du 12 au 15 juin, Desjardins présente en collaboration avec Hydro-Québec la 31e édition du Festival de la chanson de Tadoussac. Un festival qui vous offre la possibilité d'allier économie et écologie. Une navette partira de Québec pour Tadoussac de la gare du Palais vendredi le 13 juin à midi. Le retour vers Québec se fera dimanche le 15 juin à 13h de Tadoussac. 20$ par trajet. Paiement sur place en argent comptant. Informez-vous sur chansontadoussac.com. Une invitation de la bière Bellegueule. À l'adolescence, il suffit souvent d'une oreille attentive pour aider, pour comprendre, pour encourager un jeune à poursuivre ses études et éviter ainsi de décrocher. L'éducation est la clé pour s'en sortir et s'assurer un avenir meilleur. Si votre ado cherche de l'aide et vit des difficultés, parfois, comme parents, on a besoin de ressources. Avec votre jeune, visitez jeunessejécoute.ca. Un message des Ursulines, fiers d'être partenaires de Jeunesse J'écoute.
Rousse ou blonde? Laquelle choisir? Qu'elle soit rousse ou blonde, les bières de CKRL sont faites à partir d'ingrédients bio certifiés et réalisés par les maîtres brasseurs de la microbrasserie La Barberie. Les bières rousses et blondes de CKRL sont disponibles chez l'accommodation GD au 500 3e Avenue à Limoilou, au dépanneur La Duchesse d'Aiguillon, maintenant situé au 469 rue Saint-Jean, au Bal du Lézard au 1049 3e Avenue à Limoilou et au Bar Le Sacrilège au 447 rue Saint-Jean. Rousse ou blonde? Je pense que je vais essayer les deux. Vous possédez une carte de membre de CKRL?
Économisez 10 % à chaque fois que vous faites un achat au Centre de yoga de Québec, 1355 3e Avenue. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique.
CKRL.
Donc, on commence maintenant la dernière portion. Déjà, ça passe donc bien vite, une émission sur Billy Corgan, en co-animation en plus. C'est assez incroyable. Et là, ben dans le fond, on va y aller vers des projets, je dirais, plus solo. Ou en tout cas, ouais. Plus solo, regarde. Déjà que la fin des Smashing, c'était pas mal solo. Là.
Ben effectivement, là, le prochain album qu'on va vous présenter, c'est Mary Star of the Sea, du groupe Zwan, que Billy Corgan a fondé avec des gens qu'il connaissait déjà, donc des anciens amis. Il voulait faire une collaboration de cet album-là. Donc, pour lui, il voulait arrêter son dictatorship. Est-ce que ça a fonctionné? C'est difficile à le savoir. Mais ce qu'on sait, c'est que ça a fini en queue de poisson. Suite à cet album-là, les membres du band se sont tous séparés. La chicane a pogné. Billy Corgan ne parle plus à aucun de ses membres-là. Il veut même plus entendre ses anciennes chansons. Il veut plus les jouer non plus. Donc, il y a quelques chansons intéressantes sur cet album-là, mais on peut pas dire que dans le parcours de Billy Corgan, c'est très reluisant.
Et ça n'a pas été long, là. Avant que la chicane pogne, là, ça n'a pas eu une longue durée de vie, je dirais, le Zwan.
Non, vraiment pas. Ça a duré un an à peu près, un an et demi. Dans le fond, là, ils ont fait leur album, ils ont essayé de changer le style. Dans le fond, ils voulaient ne pas imiter Smashing Pumpkins, donc il est arrivé avec un style qui s'essayait plus joyeux, quelque chose de plus, mettons, je dirais, il a changé son look de vampire pour un look avec un béret. Donc, on dirait que c'était forcé un petit peu. Ça sortait pas du naturel de Billy Corgan qu'on avait connu avant.
Le seul membre de Zwan qui avait déjà joué avec Billy, c'était Jimmy Chamberlain, le drummer qui revenait. C'est toujours bien entendu, ou presque, là, je dirais, avec Jimmy, à moins que je me trompe. Là.
Non, ils sont toujours bien entendus. Quand Jimmy a quitté le band avec ses problèmes de drogue, c'était pas parce que Billy et lui s'entendaient mal, c'était plus des problèmes personnels qu'il avait, mais les deux se sont toujours bien respectés, puis je pense qu'ils se respectent encore aujourd'hui, même si on va voir plus tard qu'ils ont séparé leur route.
Ouais, effectivement. Et petit fait intéressant sur Zwan, c'est que la bassiste Paz Lunchanten est maintenant rendue celle qui remplace, j'oublie son nom, la fille des Breeders, dans le fond, celle qui avait parti les Breeders, dans les Pixies.
Très intéressant.
Je m'en rappelle plus de son nom. Et ensuite de ça, ben, on va y aller avec l'album solo de Billy, qui était The Future Embrace, qui était un album... Encore une fois, Billy, ça a pas été facile, sérieux. Cette partie-là, là, cette portion-là de sa vie, ça a été tough.
Ben là, quand il s'est rendu compte que Zwan, ça fonctionnait pas, il a dit « je m'en vais, je fais un album solo ». Donc, il est parti en tournée, il a sorti un album qui s'appelait The Future Embrace. Ça a pas encore une fois été un très grand succès. Les gens qui le suivaient, même dans les spectacles, lui demandaient de jouer seulement du Smashing Pumpkins, ce qui insultait Billy. Donc, il y a certaines chansons, certaines compositions que j'apprécie sur cet album-là, mais c'est un petit peu tombé dans l'oubli quand même.
Mais Billy, dans le fond, là, regarde, on va faire une petite parenthèse super vite. C'est quelqu'un avec un ego quand même assez hallucinant et c'est quelqu'un de très contradictoire. Même à partir de après cette portion-là, et même un petit peu avant, dans le fond, les Smashing ne sont plus l'ombre de ce qu'ils ont déjà été. Mais pourtant, Billy s'accroche à son titre de Smashing Pumpkins, parce que les Smashing Pumpkins se sont reformés avec une nouvelle mouture. Il a sacré tout le monde dehors, il est revenu par après cette portion-là. Mais dans le fond, ça l'a toujours insulté de rejouer les vieux succès des Smashing, mais tu sais, il vit pareil quand même très bien sur sa notoriété. Là.
Exactement. Donc on peut se demander, est-ce que c'est opportuniste de continuer avec ce nom-là, Smashing Pumpkins? Lui, il va dire que non. Certains fans pensent que oui. Mais ce qui est certain, c'est que finalement, là, après toutes les épreuves que le groupe a vécues, on peut pas dire que le Smashing Pumpkins d'aujourd'hui, ça a un lien avec l'ancien Smashing Pumpkins finalement. Là.
Effectivement. Donc, on y va avec la pièce Of a Broken Heart de Zwan, et ensuite de ça, ben, on y va avec The Camera Eye, sorti de son album solo The Future Embrace.
Once in my life, only to try to take a guess to be the best. A feeling I hide that runs as well, that keeps us alive. I want you to climb with me until I die of a broken heart. Until I die, I'm a broken heart. I'm a broken heart. Until I die, the heart of a child is in your hands now. So let's see you smile. You forgave all your changes made. So let's count the miles together until I die. I'm a broken heart. I'm a broken heart. If only I died just once in my life, if only to try together until I die of a broken heart, a broken heart, until I
c'était donc quand même intéressante la pièce de Camera Eye tirée de l'album solo de Billy Corgan.
Oui, puis la seule chanson qui était un petit peu plus populaire, là, faut mettre le populaire entre guillemets, là, c'est Walking Shade. Il y avait eu un vidéoclip de ça. Le okay. vidéoclip est très spécial, mais c'est quand même intéressant à écouter.
OK. Là, dans le fond, pour les pièces suivantes, mais dans le fond, c'est la dernière intervention qu'on fait ce soir. On va vous présenter les trois autres pièces en rafale. Ça fait partie des dernières sorties des Smashing Pumpkins parce que le groupe est toujours actif. Dans le fond, il s'est reformé en 2007. Dans le fond, avec seulement Billy comme membre original du quatuor.
Ben il y a Chamberlain aussi qui était là.
Oui, c'est vrai, mais qui est parti peu de temps après la formation, la reformation.
Exact.
On va y aller avec Doomsday Clock de Zeitgeist, qui est sorti en 2007. Ensuite de ça, Tear Garden by Kaleidoscope. C'était un projet.
Un album concept. Là. Il a sorti des chansons sur Internet au fur et à mesure, puis il voulait en faire un album par la suite. Ça a marché plus ou moins, mais ça donne un résultat assez expérimental.
C'est ça. Puis je pense qu'il en sortait une pièce quasiment par semaine. En tout cas, c'était fou. Il y avait 44 pièces de prévues pour faire l'album Tear Garden. Finalement, ben, il y en a une dizaine qui se sont retrouvées dans l'album qui a suivi 2 ans après, Oceania. Et dans le fond, sur cet album-là, Oceania, on va présenter Violet Rays. Pour ce qui est Tear Garden by Kaleidoscope, en 2010, on va présenter la pièce Stitch in Time. Merci beaucoup, François, d'être venu co-animer l'émission avec moi. Ça a été un plaisir de t'avoir à mes côtés pour faire cette émission-là.
Ben, c'est moi qui te remercie. Ça a été bien intéressant d'être à côté de l'encyclopédie de la musique à Québec. Merci, Simon.
Ben, merci beaucoup. Et dans le fond, pour la semaine prochaine, ça va être la dernière émission de La Marge. Je vais faire un petit récapitulatif de tout ce que j'ai reçu durant l'année que j'ai pas eu le temps de passer. Fait que des découvertes, énormément de découvertes, des trucs un petit peu hors normes, même pour La Marge. Alors, je vous mets donc un rendez-vous pour mardi prochain pour la dernière de la saison. Alors donc, bonne fin de soirée tout le monde. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute et ben dans le fond, il va y avoir les saints patrons de la couvaine qui vont suivre. Bonne soirée, François.
Bonsoir.
Everyone afraid, is everyone
It's just a stitch in time. It's perfect, I don't mind. Sailing on your endless sea. You're perfect, I don't mind. I've got your stitch in mind. Everywhere I wanna be. Don't say you want too much. They'll say you had enough. Don't let them lay their trips on you. The summer. You're everywhere at once and you can't break free.
Téléchargez La Marge sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. Cette soirée vous est présentée grâce à la participation du Bal du Lézard. Le Bal du Lézard, 1049 3e Avenue à Limoilou. Lebaldulezard.com.
En mai, ne manquez pas les événements ponctuels du cinéma Le Clap. Le 4 mai, voyez le programme Kino Québec et l'Opéra National de Paris, La fiancée de l'Ouest de Puccini. Le 18 mai, Le Clap laisse carte blanche aux diffuseurs anti-tube pour un programme inédit. Dès le 14 mai, voyez Les aventuriers voyageurs en rafale tous les mercredis à 19h. De plus, le cinéma Le Clap anime le musée de la civilisation tous les lundis et mardis. Venez assister à des projections de la programmation du Clap au cœur du centre-ville de Québec. Pour obtenir les détails de l'horaire des films, rendez-vous au clap.ca. Vendredi 23 mai 20h, le théâtre Petit Champlain propose Sarah Toussaint Léveillé et Catherine Durand en plateau double.
Mais moi je m'en fous de toi et de tout tes tralala, s'il y a bien une seule et unique chose.
Sarah Toussaint Léveillé est une auteure, compositrice, interprète qu'on dit hippie folk, garçonne bohème, confortable, un brin hipster. Chaque spectacle est différent selon le pouls du moment. Un cinquième album en poche, Catherine Durand présente son spectacle en duo, inspiré des sonorités des murs blancs du Nord. Catherine a choisi de revisiter ses nouvelles chansons, de les adapter pour une rencontre avec son public en toute intimité.
Une pluie de silence, la ville en suspens.
Billets disponibles à la billetterie du théâtre Petit Champlain au 418 692 2631 ou sur le réseau Billettech.
Vous possédez une carte de membre de CKRL?
Économisez 10 % à chaque fois que vous faites un achat chez Sillon le Disquaire au 1049 Avenue Cartier.
La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique.
Au lieu de plaisir, de rencontres et de culture à Québec, le Sacrilège, votre bar de quartier, prépare sa terrasse pour l'été. Au cœur du Faubourg Saint-Jean-Baptiste, cette institution bat au rythme des activités artistiques qui y sont présentées. Venez profiter des nombreux spéciaux offerts tous les jours. Rendez-vous au 447 rue Saint-Jean. Le Sacrilège, fier partenaire de CKRL, félicite la station pour ses nombreuses années de service.
Les productions Limoilou en vrac et Première Ovation Musique vous présentent l'événement Rendez-vous musical, première édition. Du 30 avril au 28 mai, tous les mercredis, deux groupes de la relève prendront d'assaut la scène du Bal du Lézard. Le 30 avril, DeLorean et Odile Dupont. Le 7 mai, Macédoine et Generator. Le 14 mai, Tous Azimuts et Arfan. Le 21 mai, Schizophonique et chez Orny on Wine. Et le 28 mai, La Chose et Transmission. Rendez-vous musical du 30 avril au 28 mai au Bal du Lézard. Entrée 5 $ incluant une surprise boréale. Une collaboration de Boréal, la Caisse de Limoilou, le Bal du Lézard et Première Ovation Musique.
89.1 CKRL Québec.